Vous êtes à Boulevard 102.1, le retour de Boulevard qui est là jusqu'à 18 ans. Je m'appelle Audrey Pinchot, si vous venez de vous joindre, Max Larouche qui est là également. Et Antonine Carini, Alanis Morissette.
Merci.
Analyste politique. J'ai envie qu'on commence par jaser de culture et de censure. La nouvelle est sortie hier, puis tu vois, je me suis pas encore placée. Je trouve que c'est difficile, Max. Puis moi, on a full jasé hier en se disant peut-être qu'on va être capable de finir par trouver une espèce de terrain. Les auditeurs ont embarqué. C'est difficile parce que quand tu prends un artiste que t'aimes, on dirait que tout d'un coup, ta vision change. Quand t'en as rien à foutre, tout d'un coup, t'es peut-être potentiellement d'accord. On apprenait hier que les spectacles du chanteur Sean Foyt ont été annulés les uns après les autres au Canada. Musicien country, figure connue de la droite chrétienne, grand fan du MAGA, pro-Trump, mais c'est pas tant ça aussi que les idées conspirationnistes, les oppositions aux mesures sanitaires pendant la pandémie. Il y a pas que ça, il est contre les droits LGBTQ. Écoute, la liste est vraiment longue sur le personnage. On s'en est rendu compte un peu dernière minute. Il y a certains qui voient ça, ces annulations-là, comme une forme de censure. Est-ce que pour toi, c'est le cas, Antonine?
Bien, c'est toujours un peu compliqué de mettre la ligne, mais de la censure, c'est si on t'empêche de t'exprimer point à la ligne. Dans le sens que, moi, par exemple, si j'ai une salle de spectacle, c'est ma salle de spectacle, puis que je veux pas que des chanteurs X, Y, Z ou des artistes, pour des raisons politiques ou peu importe, viennent dans ma salle de spectacle, moi, je trouve pas que c'est de la censure. Ça s'appelle juste comme t'as une salle privée.
Ce qui arrive, tu sais, exemple, là, je prends un exemple ailleurs, mais vous allez comprendre. Julien Lacroix, l'humoriste, grosse controverse, ça n'a pas été judiciarisé, mais quand il a fait son retour, lui, il appelait les salles. C'est sûr qu'il y a des salles qui ont dit « Hey, c'est-tu quoi, ouais. Julien? Tu feras pas ton show chez nous. » Fait que ça, c'est-tu de la censure aussi?
Moi, je trouve pas. Si c'est ta salle, c'est privé, c'est pas de la censure, parce que tu peux aller ailleurs, tu peux trouver d'autres tribunes si tu veux. Maintenant, tu sais, dans le cas de Exposité ici à Québec, bien là, on tombe dans le domaine plus public. Puis il y avait eu quelques années, il y a de ça quelques années, un événement anti-avortement qui se tenait au Centre des congrès, qui est une salle qui appartient au gouvernement du Québec.
Ça va amener le même débat, là.
Gros débat. Donc, finalement, l'événement a été annulé. Puis même des gens qui ne sont pas nécessairement anti-avortement avaient dit, honnêtement, c'est un peu délicat, là. T'sais, c'est des événements internationaux qui viennent à Québec. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de dire, bien, non, pas cet événement-là, oui à celui-là? À ça, on peut répondre... Bien, là, c'était des anti-avortements, mais si, par exemple, c'était des gens qui font la promotion de propos haineux, est-ce qu'on les laisserait venir faire leur événement dans une salle qui appartient au gouvernement du Québec?
Donc, un rassemblement nazi, mettons, là.
Genre, là, j'osais pas le dire, là,
mais notre niveau d'aisance serait pas là pendant tout, là.
Mais tout ça pour dire que la ligne, c'est dur de la tracer. C'est un peu du cas par cas, mais quand on est dans des espaces publics, c'est sûr que le gouvernement, que ce soit municipal, québécois ou fédéral, a une responsabilité à un moment donné de mettre la ligne à quelque part parce que tu ne vas pas t'associer à des propos anti-LGBT, notamment. Là, dans le cas de ce chanteur, moi, tu sais, on voit dans tous les grands titres, MAGA, singer, etc., je m'en fous qu'il soit MAGA. C'est pas ses opinions politiques ou pour qui il vote le problème. Le problème, c'est qu'il a des propos systématiques qui encouragent même à la violence dans certains cas contre des groupes de la société. En fait, les propos haineux, c'est quelque chose qui est encadré par la loi. Ça, tu peux pas, que tu sois une salle privée ou une salle publique à partir du gouvernement, tu veux pas t'associer à ça. Il y a peut-être des privés qui vont le faire et ils vont accepter les conséquences qui viennent avec. Et ils ont le droit de le faire, mais tu as le droit aussi de refuser. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on a ce débat-là à quelques
heures du show. Ben oui, c'est qui a booké ça, là?
Moi, je m'excuse, mais quand je rencontre quelqu'un ou que je m'associe avec quelqu'un ou que je m'en vais faire une nouvelle émission à quelque part, je google les gens. Là. C'est comme la base. Là,
dans tout, là, tu dates dans la vie, tu googles.
Tu googles, là, voyons. Là.
Tu prends tes précautions.
Mais là, c'est quoi qui s'est passé? Parce que c'est
ça a pris Halifax, du côté de Halifax, qui est le premier show qui a été annulé. Que là, Québec fasse comme « Ah ouais, eux autres, OK. »
Là, tu c'est vérifies, lui. Là, tu fais « Ouh, OK, c'est ce petit personnage-là c'est qui lui, va venir ça. Chez nous. » Puis tu sais, au-delà des propos haineux, c'est vrai que ça aurait pu aussi créer d'autres problématiques, par exemple des manifestations. Par exemple, si la personne, elle avait juste des opinions qui peuvent laisser à désirer, mais qui ne sont pas nécessairement des propos haineux, bien, la salle aurait pu dire on va tenir le spectacle, puis s'il y a des gens qui veulent manifester, bon, on va encadrer la manifestation.
Mais j'ai donné l'exemple hier, parce qu'on s'est posé la question de dire OK, si c'est un artiste qu'on aimait, moi je vais voir Linkin Park les 5, 6 ou au Centre Bell. Emily qui était dans l'église de Scientologie, là. On va-tu le Centre Bell, va-tu dire
on ouais, s'associe finalement... à la Scientologie, ouais, non, donc c'est... on veut pas. Il y avait pendant la pandémie le groupe de rap français I Am qui avait eu des propos contre les mesures sanitaires. On se rappelle, c'était un moment hyper tendu. Puis, je me rappelle moi-même que ça m'avait dérangé. Puis moi, c'est un groupe que j'aimais quand j'étais jeune beaucoup puis que j'aime encore aujourd'hui. Puis ça m'avait déçu. Après ça, tous les fans, tu sais, là, on fait plein de noms. Michael Jackson.
Ben oui.
C'est toutes les histoires qui sont sorties au fil des ans sur Michael Jackson. Est-ce qu'on doit séparer les artistes de leurs actes?
Ça, c'est toujours tough. Je pense que c'est une ligne qui est tellement personnelle. Puis le pire, c'est qu'on n'a aucune cohérence là-dedans. Il n'y a personne qui est cohérent quand on parle. Éric Lapointe, on en jaseur d'onde. Tantôt, c'est super émotif. Puis là, est-ce que tu es capable d'apprécier l'œuvre quand même, puis de séparer justement l'humain de ce qu'il est capable de créer musicalement?
C'est du cas par cas. T'sais, prenons-le l'exemple d'Éric Lapointe. C'était à Victoriaville, je pense, il y a quelques mois. Il avait été invité pour un événement, puis ça avait fait grand bruit. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y avait des vox pop dans la rue, puis il y a plein de gens qui disaient « Ah, oh, mais c'est beau, là, il a payé sa dette à société. Là, on peut-tu passer ce qu'il faut qu'il soit pour tout le reste de son existence? Il n'a plus le droit de chanter. Après ça, tu as le droit d'y aller ou pas? »
Il y a la gravité des faits. Je pense qu'on a toute notre tolérance personnelle par rapport à ça.
Je pense qu'il n'y a personne qui va se faire attacher les bras dans le dos, puis attacher les pieds, puis traîner de force au show d'Éric Lapointe. Il y a ça aussi.
T'es pas obligé d'y aller. Puis honnêtement, si ça te heurte, t'as le droit aussi d'exprimer ton opinion par rapport à ça. Mm-hmm. Je pense que les gens ont le droit d'y aller. Par contre, là, encore une fois, je reviens à notre chanteur, sympathique chanteur, qui est venu aussi sauver le Canada en passant, parce que lui, c'est une grande mission d'évangélisation aussi, là, à travers ça, ce qui crée toujours des malaises. C'est vraiment un personnage extrêmement particulier.
Il y a de grandes convictions religieuses. Là.
Il parle beaucoup de satanisme aussi. Tout ce qui est LGBT va très, très régulièrement les associer à ce qu'on appelle le grooming. Donc, d'accuser, en fait, les gens de la communauté LGBTQ de s'en prendre aux enfants, de les...
C'est un peu débile, ces bords, là.
Ben, c'est
d'en
ça.
Abuser,
dans la complosphère, c'est les propos qu'on rencontre régulièrement. Puis, à un moment donné, ben, de s'associer à une personne comme ça, même s'il a le droit de s'exprimer sur les tribunes qui lui sont ouvertes, puis il y en a probablement beaucoup aux États-Unis. Cela dit, j'ajoute aussi qu'aux États-Unis, il y a de la difficulté souvent à aller chercher des permis aussi pour ces spectacles. En fait, c'est pas juste Canada,
mais
Québec.
Je voulais te demander justement si à quelque part, des incidents comme ça, ça pouvait contribuer à durcir peut-être l'image du Canada face aux États-Unis, là, dans la situation dans laquelle on est. Est-ce que c'est des petites graines qu'on ajoute qui viennent comme spicer un peu la situation qui est déjà présente?
Ouais, j'ai l'impression que les deux entrent en dynamique là en ce moment là, tout ce qui est, tu sais, juste le fait qu'il y ait un chanteur américain qui dit qu'il va venir sauver le Canada dans le contexte actuel,
particulier,
on s'entend que ça vient comme nous chercher davantage. Ouais. Mais non, il y a des problèmes aussi aux États-Unis, je voyais des nombreuses villes américaines qui
ça peut pas nous nuire là, ça a pas ça a pas d'impact
au point
ça
où on en est honnêtement là.
Rendu là pas plus pas moins là.
Je pense pas que c'est lui qui va faire une grande différence, quoi qu'on sait jamais, peut-être que on devrait surveiller le compte Truth de Donald Trump, lui qui micro gère le sucre dans le coke, peut-être qu'il va venir nous micro-gérer exposité.
C'est peut-être son prochain combat.
Moi, je suis bien déçu parce que j'ai plus rien à faire demain soir. T'es supposé y aller. Puis fait que si vous avez des idées d'activités demain soir, je suis preneur. Là, ouais, et que je ne sais pas qui va venir me sauver à cette heure.
Écrivez, envoyez des textos avec des propositions, là, pauvre Max.
88-97-102. Les relations entre le Canada et les États-Unis qui sont assez tendues en ce moment, on ne s'apprend rien, ce n'est pas une surprise. Ça fait 6 mois que Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche.
Il en reste
3,5. Qu'est-ce qu'on retient de son mandat jusqu'à maintenant, Antonine?
Avez-vous 25 minutes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le début du mandat. C'est un feu d'artifice de politique, de décret, de défaire ce qui a été fait par son prédécesseur. Et lui va dire que tout ça est extraordinaire et que c'est des accomplissements là, qui sont huge, extraordinary, awesome et tous les mots que vous pouvez trouver. L'état des relations entre le Canada et les États-Unis est vraiment à son plus bas. Puis il y a vraiment quelque chose qui m'a accroché. Ce matin, il y avait un sondage de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui démontre que vraiment la question des voyages aux États-Unis est en chute libre.
Oui, ben oui.
Ça a un impact incroyable. Tu sais, le boycott des produits, je ne sais pas pour vous si vous boycottez toujours. Là, on était bien fâchés en début d'année, mais après ça, on dirait qu'on y a moins pensé.
Je te mentirais de te dire que je vis là-dessus. Là.
Non, c'est ça. Moi non plus. Là. Mais voyager aux États-Unis, moi, ça ne me le dit pas beaucoup
ces
temps-ci.
Moi, c'est plus à cause du taux de change. Là, mais...
ben, c'est une bonne
raison. Peu importe la raison, c'est ça. Puis en même temps, c'est bon pour nous autres. Là. On n'arrête pas de voir ça des articles des dernières heures qui disent à quel point, au niveau touristique, Québec en ce moment, ça fait du bien. Là.
Ben, c'est ça. Donc, 51% des Québécois qui ont annulé un voyage aux États-Unis depuis le retour de Trump.
Quand même. Ça fait qu'une. Annulé. Qui avait un voyage prévu.
Oui, qui avait l'intention d'y aller et qui n'ira pas. 17% qui ont vraiment diminué leur déplacement aux États-Unis. Il y a 57% des Québécois qui prévoient voyager au Québec cet été. Donc, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour nos régions. C'est une tendance qui était quand même, je dirais, en croissance. Là, avec la pandémie aussi, on dirait que l'association entre voyager l'été et plus aller vers le tourisme local. D'ailleurs, savez-vous c'est quoi la région la plus populaire pour les touristes au Québec? Soyez-vous.
Ben, c'est nous autres.
Si, ben oui, c'est à Québec. Là, comment?
Moi et toi, Pinchot.
Ben, pendant trois secondes, je me suis dit, ben là, si tu nous le demandes, c'est clairement, c'est peut-être pas ici, mais il me semble que...
Non, c'est Québec qui gagne toujours. Il y avait un autre sondage, cette fois du CA Québec, là, qui sort à chaque année, un sondage sur les intentions des vacances des Québécois. 45% des Québécois qui affirmaient que le conflit entre les gouvernements du Canada et des États-Unis a un impact sur la planification de leurs vacances. Sur le site d'Affaires mondiales Canada, avant de voyager, toujours aller voir les avertissements puis les conseils d'Affaires mondiales Canada pour le pays dans lequel vous voyagez. Il y a eu des changements la semaine passée et voici ce qu'on y indique. Les agents frontaliers disposent souvent d'un grand pouvoir discrétionnaire pour prendre ces décisions. Les autorités américaines appliquent strictement les exigences d'entrée. Attendez-vous à un examen minutieux au port d'entrée, y compris des appareils électroniques. Conformez-vous et soyez franc dans toutes vos interactions avec les autorités frontalières. Si l'entrée vous est refusée, vous risquez d'être détenu en attendant votre expulsion.
Mais tu sais, moi, c'est assez, tu vois, pour pas que j'y aille.
Ben, moi
ça
aussi,
te gâche des vacances.
J'ai pas envie que le monde fouille dans mon téléphone.
Ben, pas tant.
Et on a vu l'histoire d'un... C'était un touriste norvégien, si je ne m'abuse, en fait, scandinave, là, pour être sûr de pas me tromper, qui s'était fait refuser l'entrée aux États-Unis. Ils avaient fouillé dans son cellulaire et ils avaient trouvé un mime de Jelly Vans. Tu sais, des fois, il est dépeint comme un gros bébé, là, Jelly Vans.
Ouais.
Donc, il y avait ce mime en sa possession.
Ça a fait en sorte qu'il n'a pas pu rentrer.
Ben, il y a débat parce que l'agence des services frontaliers a dit « c'est pas ça du tout, c'est que monsieur a admis avoir déjà fumé du cannabis ».
Ah, franchement.
Fait que là, si t'as déjà fumé une puff de weed...
Tout d'un coup, tu rentres plus.
Tabarouette, ça fait pas beaucoup de monde.
Il a jamais été jeune, lui, dans sa vie.
Non, mais surtout, il y a moitié des États aux États-Unis où c'est légal,
ben
le cannabis.
Absolument.
Donc, bref, le touriste dit que c'est clairement à cause du mime qu'il y avait eu réaction de la part des agents frontaliers. Donc, est-ce que ça vous tente de vous faire fouiller dans vos cellulaires et dans vos laptops quand vous allez aux États-Unis? Il y a des universités qui ont arrêté de faire certains échanges, activités avec des universités américaines à cause de ça. Et aussi parce que les étudiants internationaux, on en a beaucoup dans nos universités, ont aussi des problématiques supplémentaires quand ils voyagent aux États-Unis. Et il y a maintenant des visas supplémentaires qui risquent d'être demandés. Puis Donald Trump veut que ça coûte 250 $ pour ces visas de non-immigrants qu'on appelle. Donc, encore plein de choses pour nous décourager.
Moi, fouiller dans mon sel, ça ne me fait rien. Mon ex faisait tout
cacher.
Le temps ça.
Non, mais... Ah oui, ça c'est ben vrai. Ah, ça, c'est un autre débat. Laissez-vous, votre chum ou votre blonde, fouiller dans votre sel. Ouais, mais regarde, c'est un passé si bien. Maintenant...
C'est une conversation qu'on aura à un moment donné. Je pense que c'est intéressant, par exemple.
C'est excellent. Cela dit, pour revenir aux États-Unis et sortir un peu de nos histoires de couple, la question des voyages aux États-Unis, ça dérange les Américains. On pourrait croire qu'ils s'en fichent un peu, qu'il y a d'autres chats à fouetter, mais l'ambassadeur américain au Canada a fait un discours dans les derniers jours dans l'ouest du Canada et il a dit qu'on était très désagréables, les Canadiens, on était très méchants, et notamment parce qu'on refusait de voyager aux États-Unis.
Puis parce qu'aussi, on bloquait leur alcool dans, dans nos provinces, puis tout. Là.
Exactement, donc c'est nous qui sommes désagréables.
Mean and nasty, hein, c'est ça qu'il avait dit.
Voilà. Exactement.
Donc, en attendant qu'on ait la date date butoir du 1er août, Dominique Leblanc, le ministre du gouvernement Carney, a indiqué qu'il y avait eu une rencontre avec le secrétaire au commerce américain, M. Lotnick. Il s'est dit encouragé. Alors, on a très, très peu de détails sur l'état des négociations.
Mais là, il y a le Japon qui vient tout juste de conclure un accord avec les États-Unis. Là. Fait que nous, mettons, on en est où, là, si on essaie de se remettre droit? Là? Parce que moi, je t'avoue, Antonine, là, j'ai comme été... je suis partie en voyage, là, je suis revenue au Festival de
Québec.
Mais Audrey,
je te rassure, c'est dur à suivre un
peu. OK, je suis contente que tu me dises ça, parce que je me suis dit, c'est-tu moi qui n'ai pas assez fait mes lectures ou c'est vraiment mêlant? Là?
Bon, oui, c'est mêlant. Premièrement, Donald Trump fait des annonces, après ça, annule, repousse, les deadlines changent. Il fait exprès, hein, parce que ça fait partie de sa méthode de négociation de nous tenir toujours un petit peu déstabilisés.
Mais il dit qu'il recule jamais puis qu'il gagne toujours.
Mais c'est vrai qu'il gagne, par exemple. Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu décourageant. Quand je vois l'entente qui a été signée avec le Japon, c'est très avantageux pour les États-Unis. Et l'entente que le Canada va signer, moi, je vous l'annonce, là, il va avoir des gains pour Donald Trump. Nous, c'est sûr que la situation avec l'ancien accord de libre-échange, la CEUM, il n'y avait pas de raison pour le Canada de changer quoi que ce soit dans tout ça. Il y avait évidemment le conflit sur le bois d'œuvre, que ça fait des années que ça, c'est toujours une problématique. Et il y avait déjà des tarifs depuis des années. Mais on va avoir des tarifs supplémentaires. Juste pour te démêler aussi, Audrey, il y a des tarifs qui sont en ce moment appliqués acier, aluminium. Mm-hmm. Et les tarifs de 35 % que Trump a lancés dans l'univers il y a quelques jours, ben s'il n'y a pas d'entente différente d'ici le 1er août, Trump a dit que c'était ça l'entente et que les tarifs seraient mis en vigueur. Et à force de se faire traiter de « choker », parce qu'on le traite de taco, Trump always chickens out. Mm-hmm. C'est un surnom qui a été donné par des journalistes américains. Moi, j'ai l'impression qu'il va vouloir prouver que cette fois-ci, il ne recule pas.
Ah, mais c'est sûr, ça touche l'ego à un certain point. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour que ce soit toujours avantageux pas mal plus pour lui?
C'est pas quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est que...
Il est plus gros que nous.
Il est plus gros que nous et il y avait un chroniqueur économique qui avait une bonne expression, là, Francis Gosselin, il disait que c'est comme essayer de jouer aux échecs avec un gorille. Il tape sur la table, il fait n'importe... Tu sais, nous, on agit comme des acteurs rationnels.
Les pions ne peuvent pas rester en place. Là.
Ben, c'est vraiment celui qui a la recette avec quelqu'un comme Donald Trump, ben, qui nous la donne parce que c'est vraiment...
Il n'y a plus de règles.
Il n'y a pas de
règles. Puis il sait, c'est ça le problème.
Et il a les reins plus solides que nous. Ouais. Puis, c'est aussi, je pense, une prise de conscience pour le Canada de se rendre compte à quel point notre économie était hyper dépendante. La géographie fait en sorte aussi que, évidemment, je lance pas de pierre aux politiciens du passé. C'est normal. Les États-Unis, c'était un marché qui était pratiquement infini. C'était notre ami, notre allié, etc. Mais on se rend compte à quel point on est hyper dépendant. Et M. Carney, même si en élection, il nous disait qu'on allait se battre puis que ça allait être tarif contre tarif, dollar pour dollar, il a commencé lui aussi à chickener out comme Donald Trump et à dire qu'on ne peut pas vraiment se permettre des tarifs, des contre-tarifs dollar pour dollar.
Mais là, si tu réalises de penser qu'un accord peut être signé d'ici le 1er août ou...
C'est très dur à dire. C'est extrêmement dur à dire. Puis cette semaine, c'est le Conseil de la Fédération en Ontario. Je pensais qu'on allait avoir un petit peu plus de détails sur l'avancement des négociations, mais le gouvernement Carney veut vraiment éviter de négocier sur la place publique.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est une bonne chose en négociation, mais ce qui est complexe en démocratie quand même, parce qu'à un moment donné, ils vont nous arriver avec un accord, puis ça va être ça qui est ça. Puis évidemment, ces accords-là, généralement, sont entérinés par le Parlement. Là, étant donné qu'on est un peu dans des processus un peu spéciaux, il faut voir si ça va être entériné par le Parlement. Mais il y a quand même un enjeu démocratique aussi à ce qu'on ait un premier ministre présentement avec son équipe très réduite de négociateurs qui sont en train de décider des choses hyper importantes qui n'ont pas fait débat. Là.
As-tu l'impression que le Québec va se faire avoir? Puis qu'on va donner des concessions qui vont venir faire plus mal au Québec ou si on va assez bien s'en sortir?
Si l'histoire est garante de l'avenir, oui. Parce que historiquement, au Canada, on a beaucoup encouragé et soutenu l'industrie automobile de l'Ontario. Beaucoup plus que nos industries au Québec. M. Legault, cette semaine, a réitéré les priorités du Québec, donc les secteurs de l'aluminium, notamment protection du français et exception culturelle. Gestion de l'offre. Gestion de l'offre, il y a un projet de loi qui est passé qui dit qu'on ne peut pas toucher à la gestion de l'offre, qui vise à protéger la gestion de l'offre. Honnêtement, les Américains vont se battre sur la gestion de l'offre jusqu'au bout. Là. Puis quand M. Carney a annulé la taxe sur les services numériques, là, parce que Trump avait envoyé un tweet puis qu'il fallait donc qu'on fasse quelque chose dans les 5 prochaines minutes, moi, je me suis dit, la prochaine affaire, il va demander la même chose pour la gestion de l'offre.
Puis on va... obéir.
Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on le ferait pas. Ça, la gestion de l'offre, si tu touches à ça, la taxe numérique, honnêtement, tout le monde s'en fichait pas mal.
On avait tout pas mal oublié, je pense, que ça s'en venait.
Les gens avaient oublié. Ça faisait débat aussi. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec cette loi-là. Ça a augmenté aussi probablement les factures des Canadiens. Donc, ça faisait un peu plus débat. Ouais. La gestion de l'offre, c'est une vache sacrée au Canada. Mm. Il y a quelques voix dissonantes, mais s'il faut que Carney abandonne la gestion de l'offre pour l'entente, ça va brasser.
La gestion de l'offre, d'ailleurs, on a fait un bon dossier avec ça en début de semaine, mardi, avec Farnell Morissette. Si jamais vous voulez aller réécouter ça sur le blvd.fm, là, c'est un beau cours 101 parce que j'ai l'impression qu'on sait ce que c'est sans réellement connaître tous les impacts puis sans réellement connaître les détails de ça. En terminant, Antonine, qu'est-ce qu'on peut faire, le Canada, pour désamorcer les tensions actuelles sans céder nécessairement à nos principes? Là? Y a-tu de quoi où on est un peu batté? Là?
On est un peu batté, sauf que moi, je suis convaincue depuis le début de cette affaire-là. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des bullies dans votre vie?
Ah, oh, mon Dieu! Veux-tu qu'on en parle?
Bon.
Et je pourrais t'en parler pendant des heures.
Moi, j'ai mes théories sur les bullies.
Et boboy!
Puis, honnêtement, je pense que la chose qui leur fait le plus mal, c'est de ne pas réagir tout le temps. Puis évidemment, les États-Unis sont plus forts que nous, comme un bully, des fois, est plus fort que nous dans les corridors de l'école secondaire.
Mais c'est ce qu'ils cherchent, une réaction.
Mais c'est ça. Donc moi, je pense que la bonne stratégie, c'est toujours de mettre un délai entre ce que M. Trump dit et après notre réaction et nos actions. Il faut faire attention pour ne pas surréagir. Il ne faut pas le provoquer non plus ou le sous-estimer.
Mettons, la taxe numérique, tu trouves qu'on a dit, OK, oui, trop vite, là, on l'enlève.
Écoute, moi, je sais pas que c'est une taxe que je soutenais là, avec tout mon cœur, mais ça m'a énormément surpris qu'on réagisse aussi rapidement puis qu'on le mette pas dans les négociations. C'est-à-dire de dire, par exemple, premièrement, attendre 2 jours avant de réagir.
Parce que là, c'était « donne-moi ton lunch », on a donné
le
lunch.
On a donné le lunch puis l'argent du lunch de demain. Là.
En même temps, si on réagit pas vite, est-ce que nous, on le reproche pas à notre gouvernement?
Je pense que non. Là, je pense que les gens ont commencé à comprendre qu'il fallait pas réagir à chaque fois que M. Trump dit quelque chose. Là, le problème avec cette affaire-là, avec la taxe numérique, c'est que Trump menaçait de mettre fin aux négociations. Donc, on attend de voir. Peut-être qu'on a obtenu quelque chose en échange. Laissez-moi en douter, mais peut-être qu'on a quelque chose en échange et que les négociations auraient effectivement pris fin. Qui sait? Donc, on laisse le bénéfice du doute. Mais à mon avis, on aurait dû dire on n'est pas fermé à revoir la taxe numérique. Négocions-le à la table de négociation et obtenons quelque chose en échange. Donc, pour moi, c'est de ne pas réagir à chaque fois. C'est de garder notre calme, de ne pas provoquer et de faire attention aussi sur le nombre de compromis qu'on veut faire sur nos politiques, parce que M. Trump est tellement mégalo qu'il retire un plaisir aussi à nous faire changer nos politiques à l'intérieur du pays.
Ah, oh, ça se sent.
On le sait.
C'est épouvantable. Oui. Ben oui, écoute, on peut rien faire.
Mais j'ai pas de solution magique à vous offrir aujourd'hui.
Ah, écoute, j'ai pas l'impression qu'on va en avoir une de toute manière, Antonine. Antonine Iacarini, qui est analyste politique, toujours un plaisir. On se rejase la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao. Dans les prochaines minutes, on écoute de Black Keys, mais au retour, c'est avec Judith Demeul qu'on parle, journaliste judiciaire au Soleil. On a une couple de dossiers à régler, des dossiers à Québec, mais on va évidemment parler de tout ce qui est Hockey Canada, qui est probablement le gros sujet du jour. C'est pas mal une éclipse médiatique. Donc, de Black Keys, voici Gold on the Ceiling. On revient à Boulevard.